Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à Radio Créum. Éthique en série avec Martin Winkler et Daniel Weinstock.
Bonjour, nous sommes de retour après un long congé d'été, fin octobre, ça fait déjà un congé d'été substantiel, pour une deuxième saison de Éthique en série, avec Daniel Weinstock, moi-même donc, et Marc Zafran, que j'ai le plaisir de réaccueillir cette année au Créum. Bonjour Marc.
Bonjour.
Nous avons parlé jusqu'à maintenant de séries très intéressantes, mais qui étaient pour l'essentiel des séries dramatiques. On a parlé de Mad Men, qui a des moments très drôles, mais qui n'est pas une série comique. Nous avons parlé de Law and Order, nous avons parlé de toutes sortes de séries pour lesquelles le ton, la note majeure est une note dramatique. Or, je pense qu'on peut être d'accord pour dire que s'il y a des cadavres de mauvaises séries dramatiques un peu ça et là, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, au Canada et ailleurs, il y en a bien plus de séries comiques qui n'ont vraiment pas marché, qui n'étaient vraiment pas drôles, qui étaient drôles et qui n'ont pas marché. Une conclusion qu'on peut...
Il y en a même qui n'étaient pas drôles et qui ont marché. Ça existe aussi.
C'est tout à fait. J'ai toujours pensé qu'il était beaucoup plus difficile de faire rire que de faire réfléchir, que de faire peur. Le rire est en fait une émotion extrêmement complexe et la télévision n'a pas toujours su, aller chercher le rire de ses téléspectateurs. Et alors, on s'est proposé pour le début de notre deuxième saison de réfléchir un peu à ce qui fait rire, ce qui nous fait rire. En discutant, on s'est rendu compte que ce qui nous fait rire, ce n'est pas nécessairement la même chose. Il y a eu une harmonie consensuelle pendant quelques semaines sur nos séries dramatiques préférées. En préparant un peu l'émission, on s'est rendu compte que sur les séries comiques, il y en a certaines que nous découvrirons probablement ensemble, que nous les avons toutes les deux aimées, mais il y a des séries que j'adore, qui me font rire aux larmes et que Marc n'apprécie pas. Alors, partons du principe, et peut-être que c'est un principe que Marc n'acceptera pas, qu'il y a en partant deux sortes de rires. Il y a le rire des tripes et il y a le rire de la tête. Le rire des tripes, c'est le rire que nous éprouvons lorsque, dans un Three Stooges, quelqu'un se casse la gueule. C'est le rire de la pelure de banane.
Oui, c'est le slapstick.
C'est le slapstick, on rit sans réfléchir, un rire viscéral qui fait du bien.
Comme les chimpanzés, quand ils voient une noix de coco tomber sur la tête d'un congénère.
Il ne faut pas le mépriser, c'est du rire qui fait bien. On se souvient de cette scène dans le dernier film de Denis Arcand où on découvre des vertus thérapeutiques au rire et on fait rentrer dans l'entreprise du personnage principal un rirologue, un type qui tous les matins fait rire les travailleurs pour promouvoir leur santé. Bon, peut-être qu'il y a des vertus thérapeutiques au rire, Dr Zafran pourra nous le dire.
Oui, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus, oui, effectivement, mais c'est difficile à établir quand même.
Mais il y a également le rire de la tête, le rire du cerveau, le rire de l'esprit, et là, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, je vais l'avouer très franchement, tout directeur de centre d'éthique que je sois, je me rends compte, quand je regarde un peu les émissions qui m'ont fait rire, qui m'ont beaucoup fait rire et que je revois avec tout autant de plaisir, ce sont des séries qui sont... disons, étrangement amorale. Je pense notamment à la série fétiche des années 90 américaine, Seinfeld, qui, comme le savent sans doute tous nos auditeurs, est une série qui a tourné pendant à peu près 10 ans, pendant plusieurs années, la série numéro 1 aux États-Unis, qui est une série qui parle essentiellement de quatre personnages de New York qui sont tous les quatre névrotiques, qui n'ont pas des vies particulièrement intéressantes, à qui il arrive des choses qui sont, à les décrire comme ça, pas particulièrement intéressantes, des gens qui réussissent à... faire un drame de à peu près n'importe quoi. Un de mes épisodes préférés, Jerry Seinfeld, le personnage principal, a emprunté un costume à un autre comique. Donc Jerry Seinfeld était un comique. Il emprunte à un autre comique un costume pour faire une soirée, pour faire un spectacle. Il n'aime pas du tout l'autre comique, ça l'énerve d'avoir avoir une dette envers cet autre comique, mais il reconnaît qu'il lui doit quelque chose. Il l'invite donc à déjeuner. Arrive le moment où le déjeuner se produit, ils sont assis l'un en face de l'autre. Jerry n'attend qu'une chose, c'est que l'heure ou l'heure et demie du dîner soit terminée. Et l'autre comique lui dit « Écoute, tu sais, j'ai pas faim, je vais juste commander une soupe. » Alors là, Jerry a peur et il se dit « Mais une soupe, est-ce que ça compte quand même comme le remboursement de la dette ?» Et alors, tout l'épisode tourne autour de la question philosophique profonde, éthique profonde que se sont sans doute posés tous nos auditeurs. « Is a soup lunch ?» Et les quatre personnages, donc.
C'est beaucoup plus drôle quand tu le racontes toi.
Et alors, les quatre personnages dissertent pendant une demi-heure, certains d'accord, d'autres pas d'accord, sur la question de savoir si c'est l'intention d'offrir un lunch qui compte, est-ce que c'est le fait de se présenter, est-ce que ce qu'on consomme compte ou non. Et ils réussissent à dire beaucoup de choses sur, au fond, un incident complètement banal. Il y a énormément également de Seinfeld, d'exploitation de quelque chose, et là j'en viens au point un peu de l'amoralité de l'humour de Seinfeld, qui est décuplé dans une autre série créée quelques années plus tard par le créateur de Seinfeld, Larry David, série qui s'appelle Curb Your Enthusiasm, en français.
Larry et ses petits soucis ou quelque chose
oui,
comme ça.
Oui, quelque chose comme ça. C'est un peu l'exploitation de l'humiliation. L'exploitation de la gêne, l'exploitation
un peu
de situations qui, dans la vraie vie, nous feraient frémir de honte, de gêne, etc., mais qui, dans ces séries, sont exploitées pour le rire. Il y a toujours, dans un épisode de Seinfeld ou de Curb Your Enthusiasm, un moment où il arrive quelque chose d'extrêmement gênant, d'humiliant à un des personnages, et plutôt que d'éviter le regard comme on le ferait dans la vraie vie, le scénario plonge en plein dans l'humiliation du personnage, et va le chercher très très loin.
Ça s'aggrave, je pense, avec les saisons, parce que moi j'avais regardé Curb Your Enthusiasm au tout début, j'en avais regardé 3 ou 4 et je n'avais pas supporté, et là en prévoyant de se revoir pour ça, j'en ai revu 2 de la saison en cours, et à peu près toutes les scènes, c'est des scènes d'humiliation, enfin dans ceux que j'ai vus, il se met dans des situations où effectivement ça devient une sorte de ressort de ressort de situation où son personnage est le plus obnoxious, le plus désagréable, le plus, comment dirais-je, pas vulgaire. Oui, il est vulgaire et en même temps, il est mal poli. Enfin, c'est insensé.
Et alors, il se permet de rire d'à peu près n'importe quoi, de choses dont on ne rit pas dans la vraie vie. On a raison de ne pas en rire. Pour mettre nos auditeurs un peu dans le parfum du début de la présente saison, Larry, à la fin de la dernière saison, la dernière saison était une saison Katrina. Donc, Larry a accueilli une famille noire, donc réfugiée de la catastrophe de Katrina à la Nouvelle-Orléans. Et à la fin de la série, ayant divorcé son épouse, donc l'épouse que l'on a connue pendant les 4 premières saisons, à la surprise de tout le monde, tombe amoureux d'une femme qui fait partie donc, de cette famille. Début de cette saison, la relation a un peu tourné au vinaigre, et il rencontre, accidentellement, il rencontre son ex-femme, ils ont un rapport, une chimie qui prend, et il se rend compte qu'au fond, il aimerait bien retourner avec son ex-femme et larguer la nouvelle. Manque de peau, il semblerait qu'il y ait un diagnostic médical qu'on attende du jour au lendemain. Il semblerait que sa nouvelle copine souffre peut-être d'un cancer. Question que se pose Larry, question morale profonde que se pose Larry et son ami, est-ce qu'on peut rompre avec une femme qui a le cancer? Réponse, non, ça fait vraiment trop, même pour Larry David, trop méchant. Donc il faut qu'il rompe avant que le diagnostic ne soit porté. Le premier épisode est donc un slapstick où Larry essaye de retourner à la maison pour rompre avec sa copine avant que le médecin n'arrive chez eux avec le diagnostic dont il craint que ce sera un diagnostic de cancer. Bon, à le raconter comme ça, c'est pas très drôle.
Non, mais
on rit de choses.
Mais même quand tu le racontes, je trouve ça tellement insupportable.
Alors, docteur Zaffran, diagnostic. Quand
non,
je regarde ça,
je crois pas que ce soit un diagnostic. Je vais établir les relations que j'ai vues entre Seinfeld et évidemment la série de Larry David, puisque c'est lui l'auteur des deux. Hier, en particulier, j'ai vu l'épisode le dernier ou l'avant-dernier épisode dans lequel il y a une soirée chez Ted Danson et Mary Steenburgen, et il y a ses copains dont la fille se met à chanter. Il trouve qu'elle chante tellement mal qu'il l'arrête. Bon, donc il se met tout le monde à dos pour ça. Christian Slater qui empile le caviar sur un cracker, et il lui dit mais tu peux pas manger autant de caviar que ça, il faut en prendre un tout petit peu, etc. Il lui dit mais je m'en fous, donc il s'en va, et puis il le dénonce à l'hôtesse. Alors évidemment Christian Slater se fait engueuler. Donc il est non seulement désagréable, Il est non seulement mal poli, au début de l'épisode, il voit un type dans l'avion qui est en short, il lui dit « il ne faut pas porter des shorts dans un avion, je n'ai pas envie de regarder des cuisses, jambes velues, des jambes velues, etc. » Bon, et on entend, alors là, c'est la première fois que ça m'est arrivé, j'entends George, oui. Le personnage de George, dans sa façon de parler. Donc, je vois bien ce que le personnage de George devait... à Larry David dans Seinfeld. Et je crois que c'est précisément ça, moi, qui m'a toujours extrêmement gêné. C'est cette manière pour un type de se mettre dans les situations les plus humiliantes qui soient, sans se rendre compte que c'est humiliant, ou en faisant mine de se rendre compte que c'est humiliant, de pas se rendre compte que c'est humiliant, et... En augmentant la gêne, non seulement chez les acteurs qui lui font face, enfin chez les comédiens qui lui font face, mais aussi, évidemment, chez le public. Et je me demande si cette situation d'humiliation n'est pas, de la même manière, ce qui te fait rire toi et ce qui me fait pas rire moi. C'est-à-dire, je pense que le fait que ça fasse rire ou non doit, quelque part, être fonction de la relation que nous avons à l'humiliation. Moi, je supporte très, très, très mal, mais toujours, et dans les situations de la vie, et c'est peut-être un handicap ou une névrose personnelle, si tu veux. Je ressens toujours très, très mal les situations d'humiliation. L'autre jour, j'étais dans le métro, il y avait un vieux monsieur sans domicile fixe, probablement, qui était au bas de trois marches, et il était couché sur le dos, la main sur la rampe, visiblement extrêmement éméché, et je ne me serais sûrement pas arrêté s'il avait été simplement assis sur la marche, mais le fait qu'il soit sur le dos allongé, alors que je sais qu'il n'était pas souffrant ni rien, il était juste tombé, il essayait de se relever, je ne supportais pas de le voir comme ça, donc je suis allé l'aider à se relever, parce que c'était cette position d'humiliation, moi, qui m'insupportait. C'était pas le fait qu'il soit SDF, on en voit tous les jours, c'était pas le fait qu'il soit éméché, on en voit tous les jours aussi. C'était son humiliation. Et c'est ça que je trouve très bizarre. J'arrive pas à comprendre que ça puisse faire rire.
Je crois que beaucoup de gens qui regardent, et c'est certainement mon cas, Curb Your Enthusiasm ou Seinfeld, ressentent avec autant de difficulté l'humiliation lorsqu'elle se produit dans la vraie vie. Hein, dans la vraie vie, c'est quelque chose dont je souffre probablement tout autant que mon voisin. Il y a peut-être des gens qui sont carrément sadiques, qui regardent Curb Your Enthusiasm et qui rigolent parce qu'ils éprouvent un plaisir à voir de l'humiliation, que ce soit dans la vraie vie ou à la télévision. Mais je crois qu'il y a quelque chose de plus compliqué qui se passe, c'est-à-dire que la plupart des gens qui vont apprécier Curb Your Enthusiasm sont des gens qui, à travers le rire qu'ils éprouvent, l'humour qu'ils trouvent dans Curb Your Enthusiasm, trouvent une manière de composer avec l'inconfort qu'ils ont par rapport à l'humiliation dans la vraie vie. Je vais faire une analogie qui est peut-être une analogie boiteuse, mais explorons-la le temps d'une minute ou deux. J'aime également beaucoup les films qui font peur. Mmh. Hein? Là aussi, il y a deux types de peur. Il y a deux types de rire, le rire des viscérales et le rire de l'esprit. Les films qui me font peur et qui me font peur, non pas parce que tout simplement quelqu'un a sauté derrière une porte et qu'il y a quelque chose littéralement de viscéral qui s'est allumé en moi et qui m'a fait peur, mais les films qui me font peur une semaine après que je l'ai vu. On parle beaucoup de Polanski ces temps-ci. Mmh. Un film que je trouve insupportable, mais délicieusement insupportable, c'est Le Locataire. Mmh. Mmh. Donc, où il y a aussi des histoires d'humiliation qui...
Oui, je me souviens pas bien.
Bon, mais Le Locataire est un film qui me fait terriblement peur, qui me donne des cauchemars et que je revois à peu près aux 2-3 ans parce qu'il y a un plaisir que je prends à ressentir cette peur. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'analogue dans l'humour noir d'un Curb Your Enthusiasm, dans l'horreur que l'on ressent, dans la peur que l'on ressent à voir un film comme celui de Polanski, c'est-à-dire une manière de composer avec une émotion, une ensemble d'émotions qui dans la vraie vie nous fait terriblement mal. It's a safe place, c'est un endroit en quelque sorte sécuritaire pour aller jusqu'au fond d'une émotion qui, dans la vraie vie, nous trouble énormément.
Je comprends ce que tu dis et je trouve ça tout à fait logique. Ce sur quoi je m'interroge, c'est pourquoi est-ce que ça marche pour toi et pas pour moi ?
C'est-à-dire, j'en ai pas la moindre idée.
Voilà. Pourquoi est-ce que moi, alors je comprends très bien que tu arrives, alors c'est là que je me sens peut-être un peu handicapé, c'est-à-dire que dans ce domaine-là, le domaine de l'humiliation, mais peut-être que c'est vrai aussi dans le domaine de certaines émotions, j'arrive pas à faire la part entre la fiction et la réalité. C'est-à-dire que pour moi, l'humiliation, elle est toujours aussi forte, elle est même plus forte dans la fiction, puisque dans la fiction, je suis assis devant mon écran, je regarde la fiction, et si je veux arrêter, je suis obligé de sacrifier l'histoire, parce qu'il y a peut-être une histoire dont je veux connaître la fin, et donc d'arrêter. Alors que dans la vraie vie, si je suis devant une situation d'humiliation, je peux toujours m'en aller, je n'ai pas besoin de savoir la suite.
Ma conjointe est incapable physiquement. Alors toi, tu as eu le courage de regarder 2-3 épisodes de Curb Your Enthusiasm pour préparer notre émission. Quand je regarde Curb Your Enthusiasm, ma conjointe est incapable d'être physiquement dans la même pièce. Ça lui fait mal.
Il y avait, dans l'épisode que j'ai regardé hier soir, il y avait un truc qui, moi, m'a beaucoup fait sourire, mais pour une raison tout à fait personnelle, c'est qu'il se brûle la main, et puis on lui met un bandage, et il doit sortir avec sa copine, il rencontre une fille avec laquelle il est sorti plusieurs années avant, qui est jouée par Sherry Stringfield, qui était dans ER. Et puis il décide d'aller la voir le soir chez elle, et il se plaint à je sais plus quel copain en disant mais oui, mais je vais pas pouvoir lui dégrafer son soutien-gorge parce que je me suis brûlé la main gauche. Alors le copain lui dit tu vas le dégrafer de la main droite. Il dit non, moi je suis gaucher, je peux pas dégrafer de la main droite, je peux dégrafer que de la main gauche. Ça m'a fait beaucoup rigoler parce que quand j'étais gamin, enfin, quand j'étais adolescent, j'adorais faire ça au travers des pulls. C'est-à-dire, je dégrafais les soutiens-gorge d'une main au travers des pulls. Mais c'était un gag, parce que c'était à ma période pré-sexuelle. C'était une sorte de... Et alors, ça me fait rigoler, parce que là, je me dis, bon, effectivement, il est couillon, parce que, là, je veux dire, avec deux doigts, on dégrafe un soutien-gorge. Et du coup, l'humour venait du fait, non pas du fait qu'il n'arrivait pas parce que, bon, il était ridicule avec elle, mais du fait que c'était un truc tellement simple. L'idée que simplement le fait d'avoir un bandage sur la main, ça puisse l'en empêcher, je trouvais ça très, très drôle. C'est quand même un personnage. C'est un personnage qui aussi me met mal à l'aise, je pense, parce qu'on a l'impression qu'il est dans une sorte d'arrogance et d'impuissance simultanée constante. Et donc, c'est un personnage qui souffre. Mais je me pose toujours la question de savoir comment on peut suivre les aventures d'un personnage qui souffre autant pendant si longtemps.
À suivre la semaine prochaine.